Avec ce soir et en direct par téléphone Alyosha Waldelazowski, et nous allons parler de ce livre fabuleux de 550 pages qui vient de paraître aux éditions Fayard et qui, pour 550 pages de pure intelligence, ne coûte pas cher. Ça coûte que 24 €. Ça s'appelle « Penser pour le nouveau siècle ». Il y a 26 acteurs de la recherche contemporaine, des philosophes, des poètes, des anthropologues, des scientifiques qui sont ici interviewés de main de maître par Alyosha Waldelazowski. L'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est la transdisciplinarité. C'est tout un réseau de pensée totale, de pensée globale, qui va être apporté dans ce 21e siècle. C'est donc des chercheurs ultra connus, ultra réputés. Donc là, déjà, pour les interviewer, on peut être intimidé. Mais non, Alyosha Waldelazowski, non, il pose des questions plutôt hétérodoxes à ces chercheurs. Et là, du coup, ça rend les entretiens complètement passionnants. Penser pour le nouveau siècle, des entretiens à lire. Ça, déjà, tout de suite, c'est captivant. Et on peut se dire, tiens, un par soir, chaque soir, je vais me lire un entretien et je vais ressortir de ça avec vraiment plein d'idées. Ça fourmille de concepts. Alors, il y a des chercheurs qu'on connaît déjà, dont on connaît déjà la pensée. Très bien, on va approfondir les choses. Et puis pour d'autres, eh bien, on ne connaît pas les noms. Et là, on va découvrir tout de suite plein de kyrielles d'ouvrages à lire. Donc, c'est vraiment un ouvrage qui fourmille d'idées. Et donc, ce soir, en direct par téléphone, nous avons Alyosha Waldelazowski. Merci beaucoup d'être en direct avec nous.
Mais non, merci à vous. Je suis très heureux de votre accueil. Merci de m'accueillir.
Alors, une première question. Pourquoi cette envie d'une démarche globale?
Bah écoutez, d'abord, merci infiniment pour votre présentation, hein, qui est très, à la fois très belle, très pertinente, et vraiment, je vous remercie beaucoup. Ça me fait très plaisir. Oui, cette méthode globale, c'est-à-dire d'arriver, si je vous suis, à saisir en fait d'une seule volée, de saisir une pluralité de pensées. Et de les associer comme ça dans un même ouvrage, dans un même volume, donc au fond de les rapprocher, de les assembler ensemble. Je reprendrai d'abord ce que vous avez dit dans votre très très passionnante présentation. La question évidemment de la globalité ne va pas sans la question de la transdisciplinarité. C'est-à-dire que ce qui était en fait le projet donc de globaliser, de rassembler tous ces entretiens, c'est effectivement de dire que aujourd'hui dans notre monde actuel, qui subit des bouleversements intellectuels, mais aussi des bouleversements sociaux, économiques, politiques, moraux, sexuels, il s'agissait au fond de ne pas répartir les pensées par des filiations, par des époques, par des genres ou par des écoles, mais au contraire de c'est comme ça aussi que je ressentais votre présentation très pertinente et je vous en remercie, au contraire de mettre en valeur plutôt la transdisciplinarité, c'est-à-dire immédiatement une sorte de plasticité dynamique des pensées, des singularités, des pensées à la fois solitaires mais en même temps qui se questionnent, qui se répondent de manière nouvelle, hein, nouvelle parce que le monde appelle cette nouveauté, et effectivement ça fait des réseaux inédits, voilà.
Alors pourquoi vous avez envie de rassembler tous ces savoirs? Pourquoi vous avez envie de les rassembler? Qu'est-ce que ça va vous apporter?
Mais oui, pourquoi les rassembler ensemble? Je repartais de l'idée en fait d'un scientifique, Karl Popper, qui disait que ce qui fait la cohérence d'une époque tient à la puissance des questions que cette époque pose. Et que pour essayer de comprendre notre époque, il faut la questionner. Il faut poser des questions. Toujours poser des questions au fond, hein, c'est le rôle de l'élève, du disciple, devant ses maîtres ici qui sont réunis. Et comme vous l'avez dit, qui ne sont pas que des philosophes, bien au contraire, qui sont des biologistes, des poètes, des anthropologues, des physiciens. Je reviendrai sur quelques noms marquants, évidemment, qui ont un itinéraire propre et singulier. Mais voilà, le fait de les rassembler, c'est parce que ça permet, j'espère en tout cas, et pour moi ça l'a fait, j'espère que pour le lecteur, ça permet justement de ressentir la cohérence d'une certaine époque qui est la nôtre, qui est une nouvelle modernité, parce que cette modernité est nécessairement inactuelle, Hein, elle est fracturée, elle est diffractée, elle est en perpétuel renversement, en bouleversement. Donc les rassembler, en tout cas dans mon objectif, c'était au fond ne pas les réduire, si vous voulez, le fait de les rassembler, c'était pour montrer justement, comme les archipels propres à la poésie, à la philosophie d'Édouard Glissant, qui est un des auteurs, un des collaborateurs du livre, ce sont des archipels. Aujourd'hui, la pensée se fait en archipel. Elle se fait en croisement, elle se fait en déplacement, elle se fait en continuité. Pour essayer d'entendre, de faire résonner ces régularités de discours, ces récurrences, il était intéressant de les rassembler.
Alors, vous les avez rassemblés, mais vous auriez pu avoir un autre choix. Par exemple, celle de demander des textes à ces auteurs-là, faisant le point sur leurs travaux. Non, vous avez choisi la démarche de faire des entretiens, de poser des questions, de questionner. Alors, ma question là-dessus, c'est pourquoi cette envie plutôt de poser des questions ?
Oui, c'est une remarque vraiment très intéressante. Pourquoi, effectivement, poser des questions, c'est-à-dire partir en fait d'une certaine proximité avec une œuvre dont on est, comme vous l'avez dit, parfois très familier. Ce sont des grands classiques ou des penseurs vraiment dont on connaît les travaux et qu'on peut évidemment suivre depuis longtemps. Je pense par exemple à des penseurs politiques, de philosophie politique comme Jacques Rancière ou Marcel Gauchet, ou des anthropologues qui ont déjà un parcours important comme Maurice Godelier. Donc évidemment, on a des figures comme ça très marquantes. Alors, pourquoi la question ? À mon avis, le fait de questionner permet plusieurs choses. D'abord, ça permet d'introduire à la pensée de ces auteurs. Ce sont effectivement des auteurs qui impressionnent, des auteurs qui ont déjà une œuvre, qui ont déjà un parcours, qui ont déjà une réflexion construite au fur et à mesure des livres. Donc, questionner, c'est aussi d'une certaine façon reprendre, partir d'un certain point de vue, proposer un cheminement, un regard, donc permettre à des lecteurs, à des jeunes lecteurs, à des gens qui veulent essayer de comprendre un petit peu ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire ces bouleversements de la pensée, qui sont les bouleversements du monde, hein, je crois que l'un ne va pas sans l'autre, c'est donc de questionner, c'est introduire, c'est une manière d'entrer dans la pensée de l'autre, d'essayer de saisir à travers le biais de certaines lectures, de certaines questions, qui sont toutes différentes évidemment en fonction des auteurs, dans une proximité et en même temps dans un questionnement. C'était une idée le meilleur moyen, à mon avis, par exemple, pour découvrir la pensée d'un biologiste comme Jean-Claude Ameisen, qui a une œuvre très riche, très complexe, très difficile, ou comme le physicien Étienne Klein. Donc ce sont des disciplines, là, des sciences, hein, ce sont des scientifiques qui travaillent dans des laboratoires. L'entretien, moi, me permettait justement d'élargir un petit peu l'horizon et d'entrer, en fait, en proximité, en résonance avec eux. Donc, si vous voulez, par exemple, commencer à lire Maurice Godelier ou Jean-Claude Ameisen, l'entretien permet de rentrer dans leur pensée. Par ailleurs, il s'adresse aussi à ceux qui connaissent très bien l'œuvre et qui vont donc chercher dans l'entretien, au contraire, un regard aussi dans les marges, un regard aussi aux abords des œuvres, lorsque la pensée touche autre chose qu'elle-même. Et c'est là où la question, et encore une fois, mes questions sont simples, hein, ne cherchez vraiment pas autre chose qu'à mettre en valeur ces pensées singulières et si belles qu'on aime tous, d'arriver donc à saisir quelque chose qui peut-être permet là de toucher un rapprochement inédit, de toucher un lien avec le monde. Et donc ici, c'était, pour ceux qui connaissent déjà l'œuvre, c'est d'apporter un nouveau regard au fond que je proposais dans cette traversée des archipels.
Et c'est vrai que ce que vous dites, que vous essayez d'aborder dans vos questions les marges des œuvres, tout de suite, on va commencer par un entretien avec Badiou. Oui. Et vous interrogez Badiou sur le théâtre. C'est étonnant, on s'attend pas à ça.
Et oui. Alors, c'est-à-dire que, effectivement, l'intérêt aussi de rassembler des auteurs, c'est qu'on peut les présenter dans un ordre qui, évidemment, a sa cohérence, mais qui permet de saisir des choses un petit peu nouvelles. Comme je vous l'ai dit au départ, je tiens effectivement à l'idée que aujourd'hui, on est dans un monde qui est assez complexe, et je pense que l'objectif de rassembler donc cette petite trentaine d'auteurs, de penseurs, c'était de ne pas les rapprocher par des genres, ou des écoles, ou des disciplines. Si vous voyez un petit peu le livre, les associations sont parfois beaucoup plus inattendues ou beaucoup plus larges qu'on peut s'y attendre. C'est-à-dire que lorsque j'ai voulu évidemment ouvrir ce livre avec un entretien par Alain Badiou, nous sommes l'entrée dans la pensée d'Alain Badiou, c'est faite par l'esthétique, et plus particulièrement encore dans l'esthétique, par le théâtre. Et plus particulièrement encore dans le théâtre, dans la pratique même d'Alain Badiou comme dramaturge. C'est-à-dire ici des choses qui sont liées à l'histoire même des créations des œuvres d'Alain Badiou, à Avignon ou dans des circonstances très particulières. C'est-à-dire que ici, encore une fois, peut-être l'entretien prend les choses de biais, hein, prend les choses d'une manière un petit peu fragmentaire, fracturée, dynamique tout simplement, relationnelle, et en prenant ici le biais de l'expérience théâtrale même d'Alain Badiou, on arrive quand même évidemment à des questions qui sont politiques, à des questions qui sont philosophiques, à des questions qui sont liées aussi à l'engagement et par rapport à la figure de Sartre notamment, mais qui était aussi évidemment homme de théâtre. Donc cette résonance ici permet comme ça de trouver une position qui doit être évidemment à une bonne distance, à un équilibre assez intéressant pour permettre d'éclairer une œuvre par un biais inattendu.
J'aimerais maintenant poser la question du choix. Pourquoi vous avez choisi ces auteurs-là? Vous dites les acteurs de la recherche contemporaine, ça c'est votre expression que vous avez questionné. Ils sont, j'ai trouvé, eux-mêmes aux confluences de plusieurs disciplines pour la plupart. Alors ma question c'est qu'ils sont aussi eux-mêmes à la recherche d'un savoir global. Est-ce que c'est pour ça que vous les avez choisis? Quels choix fondamentaux avez-vous fait?
Mais oui, ça c'est effectivement une question qui est liée à, évidemment à la pensée même de ces auteurs qui implique d'arriver à les appréhender ou à les saisir d'une façon singulière. Mais le choix qui a motivé ce travail, en fait, est un choix qui finalement vient d'assez loin parce que pour moi, il s'agissait de présenter à un moment donné. C'est-à-dire que tous ces entretiens se sont faits évidemment dans une proximité de temps. C'est-à-dire qu'ils correspondent à une période qui est, les 6, 7 ou les 9 derniers mois de l'année 2008, qui en fait, donc la proximité en fait est aussi liée à la manière dont les entretiens se sont déroulés et se sont faits dans un rapprochement temporel très, très important. Mais aussi, le choix fondamental, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que la pensée française contemporaine? Aujourd'hui, comment peut-on présenter, et toutes les formes de présentation sont intéressantes et sont fondatrices, et feront fonctionner justement pour les lecteurs des manières de raisonner, de trouver leur propre intérêt, mais c'est quelle est aujourd'hui la pensée française contemporaine? Évidemment, cette question est très massive, et je ne pouvais pas l'affronter immédiatement comme ça, c'est trop difficile. Il faut, comme vous le dites très justement, il y a un choix. Il y a forcément une sélection, il y a forcément une manière de faire. Alors, le choix, en fait, c'est fait à la fois avant et pendant les entretiens, c'est-à-dire que il y a évidemment des auteurs majeurs. Il était important d'avoir certains auteurs majeurs qui, eux-mêmes, je pense, représentaient leur propre singularité, mais aussi un paysage. Je reprends la formule de Deleuze, hein, la pensée, c'est aussi d'abord un paysage, une couleur, une sensation, une forme, une certaine élégance de la langue, une certaine façon d'être. Donc, quand vous prenez par exemple un penseur comme Jean-Luc Nancy, qui était évidemment proche de Derrida, qui était proche de Lacoulabarthe, qui était un penseur qui a sa propre œuvre évidemment singulière, mais qui appartient aussi à un paysage. Et un paysage donc lié évidemment à la déconstruction, une certaine époque de la pensée qui se modifie, qui se constitue et qui a sa propre... Donc il semblait important de trouver, d'essayer d'aborder des penseurs qui étaient à la fois singuliers, profondément singuliers, et en même temps qui amenaient un certain paysage. Vous prenez par exemple un autre penseur qui n'est pas philosophe celui-là, mais qui est plutôt helléniste, anthropologue, également historien, c'est Marcel Détienne. Et ce qui est passionnant évidemment avec Marcel Détienne, c'est qu'il a travaillé avec Jean-Pierre Vernant, il a travaillé avec Pierre Vidal-Naquet, donc là les historiens qui nous écoutent évidemment seront sensibles à cette figure qui a traversé les grands champs de la pensée, qui a traversé le structuralisme, qui a traversé à sa manière, en contrepoint, avec des livres passionnants sur Dionysos. et d'autres choses. Donc Marcel d'Étienne est aussi à sa façon un paysage, a aussi traversé des époques. Et aujourd'hui, c'est ça qui a motivé le choix du livre. C'est qu'aujourd'hui, on est, si vous voulez, dans le post-structuralisme, dans la fresh theory, on est dans des nouvelles configurations passionnantes, bouleversantes, parce qu'elles modifient le paysage. Et le fait comme ça de pouvoir essayer de saisir quelques moments, quelques figures, quelques acteurs de la pensée, c'était, comme le dit le dernier chapitre, ça permet d'aborder les nouveaux visages de l'humain. La nouveauté aujourd'hui dans la passion des échanges, dans le renouvellement des questionnements, dans la traversée des disciplines, les nouvelles vérités qui permettent de prendre la mesure de notre temps.
Vous venez de prononcer l'expression « fraîche théorie ».
Oui.
Et j'ai envie de vous demander, comment vous situez-vous par rapport à la démarche des livres « fraîche théorie » ?
Là aussi, c'est une très bonne question. La démarche de ces livres qui sont, je crois, au tome 3, 4 même, de toute une série d'ouvrages faits par des penseurs, par des chercheurs, par des créateurs aussi, renouvelle fondamentalement ces livres que je lis beaucoup et je connais certains de ses collaborateurs. Donc je suis beaucoup cette manière aussi de dépasser, si vous voulez, les ponts, les passerelles et les continents. On a évidemment le continent anglo-saxon, le pragmatisme américain d'un côté, l'héritage plutôt européen de l'autre. Donc la French Theory est au-delà de la French Theory, c'est-à-dire des grands penseurs comme Deleuze, Foucault, Lyotard, Derrida, Baudrillard et tant d'autres qui ont eu évidemment leur heure de gloire et qui ont évidemment touché énormément toutes les pensées du monde, toutes les pensées des continents. Aujourd'hui, moi je me sens au contraire assez proche de la démarche de la Fresh Theory, c'est-à-dire cette volonté au fond d'être au-delà des classifications traditionnelles de l'histoire des idées, de déjouer les assignations des places et des genres et de montrer que, à travers ces questionnements, se dégagent des scènes inédites de la pensée qui permettent de reconnaître. Hein, l'idée, c'est pas d'être complètement perdu. Il y a des dérèglements, c'est sûr. Il y a des dérèglements de la pensée. C'est pour ça, par exemple, que la Fresh Theory s'intéresse évidemment aussi à la question du genre sexuel, de la communauté sexuelle et de faire dialoguer Avital Ronell, Judith Butler et d'autres figures qui connaissent à la fois très bien Foucault et qui connaissent à la fois très très bien d'autres formes de création ou de pensée. Donc oui, il y a des ressemblances, il y a des semblables, il y a des scènes nouvelles qui se mettent en place, mais le point commun de toutes ces démarches, c'est de déjouer, je pense, les identités, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient conceptuelles, et donc de montrer que ces dispositifs nouveaux doivent favoriser plutôt la relation archipélique, je reprends cette expression d'Edouard Glissant, des cultures, des langues, des différences.
Quelque chose m'a surpris, c'est la place que vous avez accordée à la littérature. Pourquoi donner cette place à la littérature dans le savoir ?
Eh bien, parce que là aussi, il y a des scientifiques, il y a des biologistes, il y a des philosophes, il y a des hommes politiques, il y a des hellénistes, il y a des gens qui travaillent plutôt sur le théâtre, et la littérature, évidemment, et là, je pense que vous pensez, il y a plusieurs, penseurs qui s'approchent de la question littéraire ou de la littérature de façon différente, mais Pierre Macheret, par exemple, qui est évidemment un ancien élève de Louis Althusser, comme Jacques Rancière, d'ailleurs, qui participe au livre. Pierre Macheret, évidemment, a écrit ce livre fabuleux qui questionne évidemment la pensée, comment pense la littérature, quelles sont les formes de pensée que la littérature provoque, produit à différentes époques, malgré elle, en elle, par elle, de manière à la fois collective et intime. La littérature, évidemment, est un paysage, là aussi, à la fois traditionnel et nouveau, et qu'il était, à mon avis, qu'il me semblait indispensable de traverser. Bon, évidemment, je crois que dans le livre d'entretien, et je vous remercie de parler de la littérature, ça compte évidemment beaucoup pour moi, et je suis très heureux d'avoir pu faire appel aussi au poète philosophe Michel Deguy, mais aussi au poète donc littéraire philosophe Édouard Glissant et d'autres, mais d'arriver évidemment à conjuguer ici l'expérience littéraire, la pratique de l'écriture, de la poésie et aussi d'une certaine pensée du monde, que ce soit la mondialité pour Édouard Glissant ou une pensée de la technique par exemple pour Michel Deguy.
Alors ça, c'est mon étonnement, c'est que vous ayez accordé cette place à la littérature, c'est un étonnement vraiment favorable, c'est oui. Vraiment fabuleux. J'ai un autre étonnement, c'est que dans cette partie, la dernière partie qui est fabuleuse, avec un entretien avec Philippe Descola, par exemple, un entretien avec François Julien, ces entretiens sont vraiment fabuleux, qui s'appelle « Nouveau visage de l'humain ». Et là, moi, j'aurais bien aimé trouver un entretien avec quelqu'un qui fabrique des biotechnologies. Est-ce que vous avez eu cette envie? Parce que j'ai l'impression que du coup, dans l'ouvrage, qui se veut aussi, pas prophétique, mais de donner un peu ce qui se pratique actuellement dans le savoir et vers où va le savoir, vers où va le savoir humain, je trouve rien sur les biotechnologies. Alors, il y a quelque chose sur les nanotechnologies, mais rien sur les biotechnologies.
C'est-à-dire, vous auriez pensé à qui comme auteur pour traiter ces questions? Par exemple, Bernard Stiegler, par exemple, quelqu'un qui approche des questions qui associent la technique, les transformations touchant l'humain. Parce que nouveau visage de l'humain, je suppose que c'est ça qui vous fait...
Voilà. Et bien, par exemple, justement, je parlais pour ouvrir l'émission de ce livre qui est sous la direction de Bernard Stiegler, qui s'appelle « Le design de nos existences » à l'époque de l'innovation ascendante, qui est paru il y a un mois aux éditions Millénie. Vous le connaissez peut-être?
Mais oui, et puis évidemment, là, dans votre question, je pensais évidemment...
Voilà, à Bernard Stiegler. Ouais. C'était un choix résolu de votre part de ne pas aborder cette question-là?
Écoutez, moi, je ne l'ai pas pris. Évidemment, je regrette et je serais très, très heureux d'avoir pu associer Bernard Stiegler au projet. Non, au contraire, c'était tout à fait possible et simplement, disons, la manière dont les choses se sont faites, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de ce projet, mais ça me tient tout à fait à cœur et j'espère avoir d'autres occasions d'associer justement cette réflexion très importante des métamorphoses de l'humain d'un point de vue biotechnologique, c'est très important. Non, moi j'avais eu l'occasion de discuter de ces questions et là je renvoie plutôt au travail du biologiste Jean-Claude Ameisen qui d'une certaine façon, tout à fait différente évidemment, mais réfléchit en profondeur à la notion de vie, de vivant. Et au fond, il aurait pu aussi participer à cette partie consacrée au visage de l'humain, qui est une partie très ouverte, comme vous dites, peut-être prophétique, qui essaie d'aller là le plus loin possible dans les métamorphoses actuelles, dans les transformations vraiment actuelles de la pensée et du monde. Voilà, moi j'avais pu, par l'entretien avec Jean-Claude Ameisen, qui est donc un biologiste et qui travaille sur la question de la vie et de la mort des cellules. Et ce qu'il dit est absolument passionnant, c'est-à-dire que la vie et la mort des cellules, au fond, est une distinction qui n'est pas la plus pertinente. Et il montre que toute l'évolution, et Jean-Claude Ameisen vient de sortir un livre sur Darwin qui est magnifique, analyse vraiment toute l'évolution d'un point de vue absolument passionnant. Et il a aussi cette capacité d'avoir des références littéraires, poétiques, philosophiques qui nourrissent beaucoup sa propre réflexion et j'étais très très heureux de l'associer au projet. Donc oui, il y a des manques sans doute dans le livre, il y a des choses qu'il faudrait compléter, il y a des envies encore et je suis très heureux en tout cas de les partager avec vous et que vous me faisiez partager aussi vos réactions qui méritent de prolonger, de compléter, d'associer d'autres penseurs, pourquoi pas, et de faire encore une fois cette association des archipels qui en fait pour moi est un livre ouvert, hein, c'est-à-dire les pensées pour le nouveau siècle, c'est un chantier. Ce sont des perspectives, ce sont des rencontres que j'essaie de rendre le plus vivant possible, le plus animé possible, d'être le plus spontané aussi possible, ce qui n'empêche pas le travail et l'approfondissement de certaines analyses et de certaines réflexions que l'on partage avec les auteurs, mais c'est un chantier ouvert, c'est-à-dire qu'il peut s'associer à d'autres livres, à d'autres projets, la fraîche théorie d'une part, la biotechnologie de l'autre, et vous voyez, c'est un moment vraiment que je considère comme limité, mais important parce que limité, parce que saisi sur le vif, et qui fait partager aussi des attentes, des regrets, des certitudes, des hésitations. Je pense que, et je reviens à une des questions fondamentales que vous avez posées, pourquoi l'entretien ? C'est parce que l'entretien permet aussi une certaine multiplicité de la pensée, d'aller à la fois vers des positions qui sont parfois retranchées et qu'il faut un peu saisir, dans une certaine fulgurance de la question, hein, parfois des questions très simples peuvent faire saisir comme ça, peuvent projeter comme ça une réponse passionnante, et je suis toujours évidemment très heureux lorsque les approches, par exemple épistémologiques et politiques ou esthétiques et anthropologiques se croisent. Et donc il y a dans le questionnement l'idée de partage, l'idée d'ouverture de chantier, la passion de l'échange, qui s'unifie parfois sous un nom et puis ensuite se transforme. Voilà, l'unité est un moment simplement particulier qui n'empêche pas la multiplicité, qui n'empêche pas l'ouverture et la circulation.
Ben merci beaucoup Alyosha Lazovski d'avoir répondu à mes questions en direct par téléphone. Merci beaucoup, bonne soirée à vous.
Merci à vous.